Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Nous allons parler du projet de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous recevons aujourd'hui le professeur Peter Kasongo. Il est de la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Professeur Peter, bonjour.
Bonjour, je dis.
Bienvenue dans cette émission pour échanger autour du projet ou du programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler du don bénévole des sang. Pourquoi est-il important de faire un don de sang? On en parle à partir de 11h05, heure de Kinshasa, dans Okapi Service. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Polydor Bansunga, la mise en onde au micro, jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons échanger autour du programme de développement des 145 territoires. Eh bien, le gouvernement congolais a mis en place ce programme de développement local, les 145 territoires de la République. C'est là pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales. Le coût du programme est estimé à 1,66 milliard de dollars. Ce projet vise à mettre en place des infrastructures socio-économiques, des bases telles que les routes, des dessertes agricoles, les microcentrales, des lampadaires, des forages, des écoles, centres de santé, marchés, bâtiments administratifs, etc. Et l'objectif final est d'améliorer la productivité, d'augmenter les revenus des ménages ruraux et d'assurer la sécurité alimentaire. Alors, on parle de ce programme, nous allons en parler aujourd'hui avec notre invité, Peter Kasongo, professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Professeur, ravi de vous retrouver encore une fois dans Okapi Service. Alors, le programme de développement des 145 territoires, qu'est-ce que cela vous inspire?
Je commence d'abord par vous dire merci, jeudi, d'avoir pensé à m'associer à ces échanges. Je crois que l'opinion nationale est très attentive à ça. Mmh. C'est un programme qui suscite beaucoup d'espoir, surtout pour nos compatriotes qui vivent en milieu rural. à qui j'ai dit bonjour. Et donc voilà. Mm-hmm. Vous voulez savoir en quoi, en fait, quelles sont les principales articulations du programme de développement.
Le développement des 145 voilà. territoires.
Ouais. Donc vous avez, comme moi bien sûr, pris connaissance de ce programme tel que on l'a lancé, le président de la République l'a lancé il y a quelques mois. Vous savez qu'il y a quelques années, pas plus tard qu'en 2015, la République démocratique du Congo était catégorisée parmi les 5 pays comptant le plus grand nombre de pauvres dans le monde, le plus grand nombre de pauvres. Et en 2019, l'IDH, donc l'indice de développement humain, classait le pays 179e sur 180 pays en fait ainsi sous analysé du point de vue de niveau de développement. Donc vous comprenez que c'est des classements qui sont quand même très alarmants.
Oui.
Ça indique lorsque vous analysez en fait la composition de l'IDH, c'est-à-dire que vous avez trois composantes importantes, c'est l'espérance de vie en bonne santé. On évalue ça.
L'IDH, ça veut dire quoi?
L'indice de développement humain.
D'accord.
Voilà, c'est un indice composite.
OK.
Il y a trois dimensions importantes.
Lesquelles?
C'est le niveau de revenu par habitant. Mm-hmm. Donc, on veut voir en moyenne qu'est-ce qu'un habitant a comme revenu par an pour permettre de pouvoir avoir accès à un certain niveau de consommation, un certain panier de consommation. La deuxième composante, c'est la composante sanitaire, l'espérance de vie en bonne santé. Et vous avez une troisième composante, c'est celle qui est la scolarisation, la scolarité, donc le niveau de fréquentation scolaire. Alors, lorsque vous voyez un pays aussi riche que le nôtre, comme on dit potentiellement riche, des années, et on nous parle de gros chiffres en termes de croissance, mais dans le classement, en réalité, on se retrouve 179e pays sur 180 du monde. Donc,
et on dit souvent, un Congolais vit avec moins d'un dollar par jour.
Moins d'un dollar par jour.
Le revenu,
donc,
le niveau de revenu.
Oui, c'est-à-dire que s'il y a eu effectivement des taux de croissance cumulés des années, et qu'on en est encore à ce niveau d'indice de développement, ça veut dire que c'était une croissance appauvrissante. C'est-à-dire que soit les résultats.
Une croissance appauvrissante.
Donc, les résultats de toutes ces croissances cumulées n'ont pas fait l'objet d'une répartition partagée à travers toute la République de manière tout à fait inclusive. Et donc, c'est ainsi que moi, je me permets quand même à ce niveau de magnifier l'initiative du président de la République. Qui, lorsqu'il faisait sa campagne, et voilà, c'était le credo « vaincre la pauvreté ». Et j'ai vu tout de suite après la prise de fonction qu'il a lancé un programme, le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Je crois que c'est ce programme en fait qui a constitué une sorte de genèse pour l'élaboration de celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le programme de développement local du 145
territoires.
En fait, en quoi ça consiste? C'est comme vous l'avez dit, le programme lui-même il a quatre composantes. La première composante c'est s'articule effectivement sur la construction ou l'aménagement des infrastructures socio-économiques de base. Et dans ça, vous avez les routes de dessert agricole, vous avez les installations ou les formations sanitaires. Donc, il y a des centres de santé qu'il faut construire, qu'il faut réhabiliter. Nous avons également des écoles. Nous avons des infrastructures sociales ou d'accès à des services sociaux comme... bien sûr, c'est ce que je venais d'énumérer tout à l'heure, les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, les marchés aussi, le marché communautaire. Vous avez également des mini centrales de fourniture d'énergie et de production
d'alimentation. Parce que sans électricité,
on ne peut rien faire.
On
ne peut pas parler de la croissance ou du développement lorsque les infrastructures d'appui à la croissance ne sont pas disponibles. Parlant de ces infrastructures, nous avons essentiellement les routes. Quelle que soit leur caractérisation, qu'elle soit
des dessertes agricoles,
que ce soit des grandes routes nationales, numéro 1, ou je ne sais pas quoi, ainsi que les sources d'énergie. Si vous n'avez pas ça, il n'est pas possible de pouvoir parler de de développement. Donc, ça, c'est la première composante.
Aujourd'hui, ce qui est bon, bien vrai, c'est que beaucoup de villages aujourd'hui ne sont pas électrifiés à travers le pays.
Mais bien sûr, il n'y a pas que des villages, mais bon, c'est vrai, vous parlez de villages.
Même des centres humains.
Mais la meilleure façon de combattre la pauvreté, c'est d'aller d'abord à ce niveau-là, au niveau des villages.
Oui.
Oui. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce sont ceux qui vivent dans ce milieu qui sont les plus vulnérables. Donc, il faut penser à leurs conditions de vie. Parce que quand ils trouvent que les conditions de vulnérabilité
ne sont pas bonnes, ils viennent ici.
Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et donc, ils viennent encore aggraver la situation, qui n'est pas déjà très bonne dans les centres urbains. Donc, c'est ça, bien entendu. Donc, la deuxième composante, c'est effectivement pour revitaliser les économies rurales. Revitaliser les économies rurales, c'est promouvoir les activités productives qui y sévissent. C'est essentiellement l'agriculture. Lorsque on parle de l'agriculture, dans son acception la plus large, vous avez la production végétale, vous avez l'élevage, la pêche, l'exploitation forestière, et même les activités de transformation alimentaire. Donc, il y a un peu d'activité de transformation.
Voilà. On dit souvent que l'agriculture, c'est la priorité des
priorités. Vous ne pouvez pas parler du développement lorsque vous avez encore une très forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour vous approvisionner en biens de première nécessité, notamment les denrées alimentaires. Donc, or, aussi, à ce niveau déjà, vous voyez que la RDC dépend à plus de 80%. De l'extérieur pour ce qui est d'approvisionnement en biens de première nécessité, particulièrement les produits, les denrées alimentaires. Et ça, c'est inacceptable pour un pays qui dispose d'autant d'opportunités, que ce soit du point de vue de la qualité du sol ou d'autres conditions climatiques. Alors, c'est
surtout que nous avons la terre est arable.
C'est ce que je dis. Le sol ici, c'est un scandale. Ce n'est pas forcément. Quand on dit scandale géologique, c'est pas seulement le sous-sol, la diversité des minéraux que nous avons. Lorsque vous parcourez pratiquement toutes les provinces, si vous voulez, que chaque province a ses particularités.
Donc on peut pratiquer l'agriculture partout à
tous les niveaux et avec plusieurs spéculations, plusieurs espèces, la RDC peut servir de grenier du monde. Oui, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine, donc entre l'Ukraine et la Russie, qui est à la base de pénurie dans certains pays, pour ce qui concerne effectivement certaines arènes alimentaires, notamment la farine de blé, ainsi de suite. Mais la Russie, donc l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à la RDC? Qu'est-ce qu'elle a que nous n'avons pas? C'est simplement, jusque-là, c'était en fait la volonté qui manquait. Et cette volonté, moi, je suis en train d'observer avec beaucoup d'admiration la dynamique qui est en train d'être impulsée actuellement dans le pays, en voulant effectivement promouvoir la relance des activités agricoles au niveau dans les milieux ruraux, notamment dans les différents territoires, à travers ce programme, ce grand programme, dont j'espère que le succès aura contribué à satisfaire les besoins de la plus grande partie de notre population, parce que ne l'ignorez pas, 70% de notre population se trouve constituée, donc concentrée dans les milieux ruraux, avec comme activité principale l'agriculture. Donc ça, c'est la deuxième composante, relancer, redynamiser les économies.
Créer une chaîne de valeur.
Bien sûr. Voilà une chaîne de valeur. Donc redynamiser les économies rurales, en relançant la production et en créant, en promouvant des mécanismes de diversification de cette production, diversification des filières et des transformations. C'est ça effectivement qui va permettre à ce que on arrive à créer des chaînes de valeur. Alors la troisième composante, c'est l'amélioration de la gouvernance locale. Bon, ça, c'est quand même un défi, mais ce qui est très important, c'est qu'on commence déjà. Il faut pas que toutes les compétences se trouvent concentrées au niveau des centres urbains, au niveau des grandes villes. Il faut permettre à ce que les entités locales puissent effectivement être dotées des capacités de formulation, d'identification, de formulation des politiques de développement local et effectivement également aussi des capacités de mise en œuvre de ces politiques. Et donc c'est ce volet-là qui va effectivement constituer la base de création des compétences locales en termes de gestion des politiques qui concernent effectivement le développement de populations locales elles-mêmes. Parce que toute l'impulsion ne doit pas venir d'ici. Il faudrait qu'elles-mêmes, les entités locales, soient en mesure de concevoir, de formuler des politiques et de les mettre en œuvre. Alors la troisième, quatrième composante, c'est elle n'apparaît pas tellement, c'est pour mettre en place un système de géoreférencé. Donc ça c'est la technologie pour pouvoir repérer à travers les moyens que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas encore très accessibles, savoir identifier les activités et leur dynamique à travers tout le territoire. Ça c'est pour raison d'échange d'informations, de contrôle et de supervision par voie des moyens de nouvelles technologies et de l'information.
Bien, nous avons déjà quelques auditeurs en ligne qui voudraient participer à cette émission, qui s'intéressent au programme de développement des 145 territoires. Nous allons accueillir Safari depuis Gabarrière et Malonga des Bandundouville. Vous voulez participer, appelez au 081 890 63 94.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Bien, nous parlons aujourd'hui du programme de développement des 145 territoires de la République. Nous avons en ligne quelques auditeurs. Safari nous appelle depuis Gabarrière et Malonga des Bandundouville. Safari, bonjour et quelle est votre préoccupation?
Ouais, bonjour. Bonjour aussi à monsieur l'invité. Je pense que le sujet m'intéresse, c'est pourquoi je voulais poser une petite question à M. Lévité. En fait, quand on parle de 145 territoires, le développement de 145 territoires, moi je pense que mon territoire aussi est écrit. Donc c'est ça, ça c'est la vérité. Mais pour l'instant, M. Lévité, mon territoire, c'est un territoire de guerre. Hein. Donc dans mon territoire, il y a la guerre. Est-ce que je vais espérer quant à ce développement ou bien que je dois attendre un autre tour, car pour l'instant, je ne suis pas sûr. J'aimerais seulement poser cette question. Sinon, bonne journée.
Merci, Safari, depuis Gabarrière. Malonga, des Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour à notre invité et à tous ceux qui nous suivent. Merci pour ce sujet vraiment très loyal.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui, ça va. Lorsque nous avions suivi ce programme de notre président, vraiment Fati, de développement des 145 territoires, je crois que toute la population RD congolaise a eu vraiment la fierté du pays. Moi, aujourd'hui, j'ai été participant à un atelier là chez nous, à Bandundouville, je suis à Kinshasa présent, que le ministère du Plan avait envoyé leur délégué pour nous former et pour nous préparer pour développer nos 5 territoires. Puisque à Kwilu, nous avons 5 territoires. Bagata, Matimanimba, Lidiofa, Bulungu et Gungu. Plus 2 villes, Bandundouville et Kikwiti. Mais on avait remarqué que c'est comme si on s'intéresse seulement des territoires, mais on avait oublié des villes. Il y a des villes. Alors, nous avons déjà conclu le montant des 5 territoires. Mais il restait 2 villes, Bandundouville et Kikwiti. On avait inséré ça, c'est déjà planifié. Et on nous avait dit que ça va commencer le janvier qui est déjà passé. Jusqu'à présent, il n'y a pas le processus. Alors, ce que je veux demander à l'invité, ce projet est louable. Est louable, s'il vous plaît. Alors que ça ne sort pas, ça ne se traduit pas à une chose seulement de chantage qui ne sera jamais réalisée. Or, si une fois réalisé ou débuté, vous verrez que c'est un projet qui va s'éterniser. Puisque ce n'est pas le développement de ce territoire-là doit être vraiment continuel et infini. Puisque c'est la vie et c'est le développement d'un pays. Et moi, je dis que jeudi, c'est bien de commencer par les infrastructures routières. Parce que la population elle-même savent se développer. Si vous arrivez aujourd'hui, avant que ce projet commence, vous allez trouver dans des villages, dans des grandes agglomérations, il y a ceux qui possèdent leur vélo, leur moto, tout ça. Mais ce qui manque, c'est la route. Et si une fois les routes des desserts agricoles et des routes principales sont réhabilitées, vous verrez que la population elle-même sera à la hauteur de se faire développer. Mais si on veut commencer dans d'autres choses, en tout cas, ce programme louable va se transformer à une histoire vraiment erronée et on peut même nier ce pouvoir de l'époque de notre vaisseau.
Bien, cas, merci Malonga. Donc, pour vous, la priorité, c'est d'abord les routes, commencer par réhabiliter les routes. On va donner la parole à Gentil de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama, c'est Gentil Basse-Combat sur nous depuis le Kananga. Alors, nous saluons surtout les projets des 145 territoires, vraiment. Mais moi, vraiment, je suis surtout inquiet par rapport à ces projets. À ce projet aussi des 145 territoires, vraiment, des développements des 145 territoires. Bon, j'ai seulement mes deux petites questions que je voulais demander à monsieur l'invité. Qu'est-ce qui freine jusqu'alors pour que ce projet ici soit utilisable depuis qu'on a lancé ce projet ici des 145 territoires ici? C'est depuis. Alors, qu'est-ce qui freine jusqu'à aujourd'hui pour ne pas travailler jusqu'alors? Deuxième question. C'est dans quelle ville qu'on a commencé à exécuter ces projets, puisque j'ai dit que j'ai toujours attendu qu'on a déjà commencé à travailler dans d'autres villes. C'est dans quelle ville qu'on est en train de travailler? C'est ça ce que je voulais aussi demander, monsieur Jody. J'ai dit, je vous remercie.
Bien, merci Gentil de Kananga. Professeur Peter Kasongo, vous avez suivi les différentes préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Bien, merci, je le remercie pour l'attention qui porte à l'émission et effectivement pour les questions qui m'ont adressé. Je commence par la première question, l'inquiétude exprimée par notre ami Safari.
Par rapport à la sécurité.
Par rapport à la sécurité. Mais vous savez, mon cher ami, là où il y a insécurité, on ne peut rien faire d'autre que travailler d'abord à rétablir la sécurité. Je crois que c'est ce qui est priorité des priorités. Je pense qu'il est, il est effectivement dans l'une des zones de l'est du pays.
En Ituri
particulièrement. Vous savez que c'est une situation qui préoccupe plus d'un Congolais, à commencer par le chef de l'État lui-même. Il faut d'abord, pour l'instant, nous ne pensez pas que vous êtes exclu, vous n'êtes pas exclu. Ce qui est prioritaire pour vous et pour nous, pour toute la République, c'est d'arriver à obtenir que vous puissiez recouvrer vos conditions de vie en toute sécurité, dans la paix. Et ce n'est qu'après ça qu'on peut commencer à déployer les autres programmes de développement. Parce qu'en fait, comment on va mettre en œuvre le projet de 145 territoires, c'est-à-dire réfectionner les routes, les écoles, les hôpitaux, là où les gens habitent, là où les gens ne sont pas. Ils ont fui peut-être pour les zones d'insécurité, où là se trouvent les différents groupes armés. Donc c'est impossible. Vous n'êtes pas exclu du projet, à ma connaissance. Simplement, il faudra prendre le mal en patience, laisser à l'autorité la latitude. Donc là, d'abord le temps de pouvoir vous permettre de recouvrer la paix. Donc c'est ça l'urgence. Et après ça, certainement que vous ferez l'objet de programmes spéciaux. Parce que vous êtes dans une situation particulière. Après avoir établi la paix, il faudrait effectivement que vous fassiez l'objet de programmes de développement particulier. Et je crois que c'est ce que je peux donner comme avis et j'espère aussi que c'est ce qui sera fait.
D'accord. Pour Malonga, des bandes de nos villes, la priorité, c'est les routes d'abord. Commencer par les routes. Réhabiliter les routes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela?
Oui, en fait, tout ça fait partie des priorités. Vous savez, on ne peut pas construire les routes et laisser les gens mourir parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé. Donc c'est tout ça. Donc il faut absolument que les actions soient effectivement coordonnées de sorte à ce qu'elles puissent avoir des effets de complémentarité. Vous avez besoin de routes pour que les gens qui sont malades soient mesurés, lorsqu'ils sont malades, ils veulent se rendre à l'hôpital, qu'ils aient effectivement accès à cet hôpital, hein, à cet hôpital facilement. Donc, les routes, c'est important. Vous avez besoin de routes pour que ceux qui produisent soient mesurés d'acheminer leurs produits là où ils peuvent être commercialisés. Ça, c'est important. Donc, les routes, on sait que c'est prioritaire, mais il ne faut pas pour autant penser que les autres aspects, les autres axes d'intervention ne le sont pas. Donc, ce qui importe ici, c'est de comprendre que le programme est conçu de telle sorte que tout soit complémentaire, que les effets des synergies puissent se produire dans, effectivement, le but de promouvoir le développement dans toutes ses dimensions. Donc, lorsqu'on parle de développement, on l'a dit tout à l'heure, le développement, c'est plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement permettre aux agriculteurs de produire et d'aller vendre, mais c'est aussi de leur permettre d'avoir accès à des soins de santé nécessaires pour qu'ils soient effectivement en condition de produire, parce que s'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne produiront pas. C'est aussi permettre à ce que ceux qui peuvent étudier puissent avoir accès à un système de scolarité classique et qui puisse effectivement demain après demain être de meilleurs producteurs agricoles et bien se servir de ces routes ici. Donc c'est important. Ce que vous dites est tout à fait fondé. Les travaux de routes de desserte agricole essentiellement dans le milieu rural sont importants, mais il ne faut pas non plus négliger les autres aspects.
Oui.
Donc ce programme, il est conçu de manière tout à fait cohérente pour que les effets des synergies puissent jouer en tenant compte des besoins des uns et des autres. Tout le monde n'est pas agriculteur pour pouvoir ne se préoccuper que des routes. Il y a des gens qui font d'autres activités qui ont besoin effectivement que dans les secteurs des interventions étatiques puissent effectivement se déployer.
Professeur, j'ai plusieurs réactions des internautes ici sur la page Facebook d'Okapi Service. Je vais lire tout à l'heure au fur et à mesure quelques réactions, mais avant cela on va accueillir d'autres auditeurs qui sont en ligne.
Il y a un ami qui a posé Malonga, qui a demandé, qui a des inquiétudes, qui demande pourquoi ça freine jusqu'ici.
Oui, on va revenir à la question des gentils de Kananga. Le temps d'accueillir Justin de Fongroumé et Maître Pascal Bétou de Kamina. Justin, vous êtes à Fongroumé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au programme de développement des 145 territoires?
C'est une initiation que tout le monde a louée. Mais du fait que ça traîne, vous voyez, que sera, comme c'était initié par le président de la République, si ça traîne, on ne dit pas l'échec, parce que je ne suis pas toujours un pessimiste. Si ça rate, si on peut dire, que sera l'image du président de la République? Et ensuite, monsieur Jody, je voulais vous dire, tu ne peux pas proposer l'aide pour tant que tu sois informé. Il y a les problèmes de la restitution qui se posent entre les Lualaba et les Oromami. Donc les paysans, ils ne sont pas informés de ça, on appelle les réunions, on informe aux autorités, et les autorités ne font jamais la restitution. Même la population jusque-là n'est pas informée qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Alors, il y a aussi le problème de base de données. Apparemment, les exécutants de ce projet, BCCO, ainsi de suite, ils ont dit de recourir à leur base de données pour tirer les entreprises et tirer même les travailleurs. On était content que nous allons avoir le travail, mais apparemment les travailleurs seront parachutés par les entreprises qui se trouvent dans les bases de données des exécutants. En tout cas, il serait très souhaitable de faire la restitution, dire que non, nous sommes à telle étape, à telle étape. C'est parmi les éléments clé du président de la République. Si on ne fait pas la restitution, nous sommes informés puisque c'est à chaque moment, même quand vous dites les bonjour les auditeurs, moi je réponds même bonjour parce que je suis un grand auditeur de la radio et les autres qui ne sont pas informés, ils ne savent rien. Donc ça c'est rendre une mauvaise justice à l'initiateur. Nous devons vraiment nous mettre à la page 4 jours et adapter. Nous voulons envoyer des milliers là qui attendent que ça pour avoir quelque chose, pour avoir l'emploi.
D'accord, et on comprend.
Si on
ne
les informe pas, on va nous surprendre.
Voilà. S'il y a des projets, par exemple, à Fongroumé, il faudrait, c'est logique qu'on puisse engager les habitants de Fongroumé pour l'exécution de ces projets. On va accueillir Maître Pascal Bétou de Kamina. Bonjour.
Bonjour Moukoubagier, comment allez-vous?
Non, c'est plutôt jeudi. Nous allons bien, Pascal, Maître Pascal. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au programme de développement des 145 territoires?
Merci beaucoup pour la parole accordée. Seulement, nous voulons saisir de cette opportunité pour lancer un appel à la communauté nationale en leur disant que c'est une opportunité que la République ne doit plus rater Parce que depuis l'indépendance, avec tout ce qui est les, toute la base qui est la colonisation avait posée à ce qui concerne le développement, l'administration congolaise après n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, à Kinshasa, vous vous plaignez par rapport aux embouteillages, aux bouchons, tout ça. Tout ça se dit à quoi? Parce que nos territoires ne sont pas viables. Tout ce qui font les études dans les territoires, ils finissent par s'injecter dans le capital. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on assiste à des exodes ruraux. Pourtant, dans nos territoires, par exemple, dans la ville de Kamina, aujourd'hui, si vous atterrissez, vous allez vous imaginer que vous êtes à Masisi. Mais pourtant, c'est une ville où il fait calme, il n'y a pas de l'insécurité, mais il n'y a plus de gens. Les gens fuient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du travail, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas des entreprises qui peuvent...
Il n'y a pas d'infrastructure. Ils préfèrent aller à Lubumbashi ou à Kinshasa.
Exactement. Mais nous sommes aussi, nous profitons aussi de cette occasion pour dire à l'autorité de ne pas être pressée avec ce projet, parce que nous savons ce qu'a produit le projet des 100 jours du chef de l'État, qui est resté comme ça. Pourtant, c'était un projet social que les Congolais pouvaient en bénéficier pour avoir des habits. Mais aujourd'hui, nous savons ce qu'est ce projet-là. Mais en ce qui concerne le projet des 145 territoires, on doit être sûr de l'entreprise qui doit exécuter. À Kamina, par exemple, il y avait le projet des coopération technique belge CTB qui devait construire des infrastructures pour l'administration publique. Aujourd'hui, si vous revenez, alors que ce projet-là était financé à 100%, l'exécution des infrastructures n'a même pas atteint 60%. L'argent est parti comme ça. Il y avait aussi le projet de construction de l'école technique de Cinquantenaire. Aujourd'hui où je vous parle, cette école technique n'est plus une école technique, c'est une école pédagogique. On apprend la pédagogie générale. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été alloué à ce projet-là a été volé par des Congolais et détourné par des Congolais. Donc, il y a l'absence de la conscience, il y a aussi cette mauvaise foi de faire freiner l'action du chef de l'État. Surtout que les Congolais voient beaucoup de choses sous l'angle politique. Ils pensent que si on réussissait, si le président de la République arrivait à réussir sur ce projet, il aura l'attention de la population, il sera réélu. Eh bien, il faut saboter ça. Nous devons nous dépasser des aspects politiques. Regardez au moins l'aspect, l'intérêt général qui va profiter à la population congolaise. C'est tout ce que je voulais dire.
Maître Pascal, vous êtes à Kamina. Quels sont les réels besoins de Kamina en termes d'infrastructures, etc.
À Kamina, nous n'avons pas de route. Kamina Lubumbashi, c'est une distance de 600 km. Déjà, à partir d'Nguba, la route est asphaltée. Mais quitter Nguba pour voir Kamina, c'est une distance de 400 km. Je vous dis, le véhicule, il met 2 mois pendant la saison sèche. Si vous arrivez à Kitenge, par exemple, et à Kabongo, les sauts de maïs coûtent 600 francs. Mais à Kamina, ici, ça coûte 3000 francs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route pour une distance de 200 km. La route est en état de délabrement. Si vous voulez atteindre Kanyama, la même chose. Donc, la ville de Kamina est enclavée à un niveau impossible. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, un petit bidon de l'huile végétale à Kamina, ça coûte 45 000 francs, alors qu'à Lubumbashi, ça ne coûte que 18 000 francs. Vous voyez la différence. Un verre de sucre qui coûtait hier à 500 francs, aujourd'hui nous achetons à 1200. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de route et le temps que le véhicule est en train de mettre, ça consomme plus le carburant et le commerçant augmente le prix des denrées alimentaires. Donc le réel problème à Kamina, c'est le problème d'infrastructure routière, c'est le problème d'électricité. Au moment où je vous parle aujourd'hui, je n'ai pas droit au courant et demain. J'aurai le courant seulement le lendemain, la nuit. Donc nous avons le courant 14 nuits sur 30 jours, vous imaginez, un délestage là exagéré. Pourtant, nous avons des barrages. Nous avons un problème d'eau. Et on a construit l'usine de captage, mais il n'y a pas la tuyauterie pour la conduite d'eau jusque dans la ville. Donc, il y a multiples problèmes.
Donc, oui, on retient qu'à Kamina, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup à faire. Les infrastructures sociaux de base ont besoin d'être réhabilitées ou construites. Merci. On va accueillir Bienvenue de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour au professeur.
On vous écoute. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au programme de développement des 145 territoires?
Oui, je dis, le projet suscite l'adhésion de toute la population congolaise, mais je dirais, au-delà de l'euphorie que cela suscite, il faut que les Congolais ouvrent l'œil et les bons, parce que nous risquerons demain ou après-demain à assister encore à un procès 145 territoires. au-delà de ça, je ne sais pas, est-ce que notre gouvernement a vraiment la réelle volonté que ce projet puisse se réaliser concrètement. De là, qu'est-ce que je voudrais dire? C'est un projet de l'État congolais. Il y a les ministères qui sont éparpillés dans tous les territoires nationaux. Mais nous constatons que l'exécution de ces projets sont confiés à des agences privées ou des agences étrangères. Nous savons au Congo comment ça se passe. On va affecter les fonds qui devaient servir au bien-être des Congolais à des agences étrangères. En soi, l'argent va être expatrié. Nous voyons tel que, je prends l'exemple, on parle de l'économie rurale, le tout tourne autour de l'agriculture et de la route. On prend l'exécution des projets à caractère agricole, on donne à l'ITEA, qui du reste est un institut de recherche. Comment cela va se réaliser pendant que nous avons le ministère d'agriculture, nous avons les moniteurs agricoles, nous avons les inspections agricoles partout dans les pays qui ne fonctionnent presque pas? Qu'est-ce qui est difficile de mettre l'argent à la disposition de l'inspection agricole pour que ces gens-là puissent travailler, parce que et ils connaissent d'ailleurs les réalités du milieu et ils connaissent comment ils peuvent faire. Mais quand vous donnez à un institut de recherche, nous savons, c'est un projet. Les projets, quand nous étudions dans les langages des projets, ça a une durée et un temps. Après que ces instituts-là ou les agences d'exécution vont partir, est-ce qu'il y aura l'appropriation par rapport à la population? Parce qu'on peut investir aujourd'hui. Si la population ne s'approprie pas de ces projets-là, nous risquerons de reculer encore. Donc, je dirais même avancer d'un pas et puis on va reculer de deux pas. Pourquoi pas utiliser les ministères qui dirigent des institutions publiques?
D'accord, merci. Bienvenue de Kinshasa. Bien, professeur, vous avez suivi les différentes préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs? Revenons d'abord à la question des gentils de Kalanga qui avait posé la question de savoir pourquoi ça traîne, dans quelle ville le programme d'exécution a déjà démarré. Il y a également Justin qui est revenu là-dessus.
Bien, merci Malonga pour la question. Vous demandez pourquoi ça traîne. C'est vrai que par rapport au moment où le programme a été lancé et au moment où les bénéficiaires, donc les agences d'exécution, ont reçu le premier décaissement, il y a eu quand même un décalage. Donc ça, il faut en tenir compte. Vous savez que c'est un grand programme, comme un des amis venait de dire tout à l'heure, qu'il ne faut pas conduire dans la précipitation. Il y a 3 agences d'exécution qui ont été sélectionnées, qui sont chargées de la mise en œuvre. À ce niveau, elles sont en train de définir, je crois qu'ils ont même déjà, ils sont suffisamment avancés, de définir le mode opératoire. Comment ils vont procéder et même de recruter des responsables des agences locales. Et c'est en cette phase que se retrouvent pour la plupart et de sélectionner également les prestataires. Donc tout ça, si on le fait dans la précipitation, on risque effectivement de tomber encore dans les déboires qu'on veut éviter, comme notre ami parlait des 100...
Du procès des 100
carassins. Des 100 jours.
Des 100 jours et on risque d'avoir aussi le procès des 100 carassins.
Moi, je crois que ça va, à un moment donné, ça va prendre vitesse de croisière parce que je suis en train de voir la manière dont le chef de l'État lui-même suit de près avec ses services. Vous-même, vous l'avez suivi plusieurs fois, des réunions, des comités de pilotage pour évaluer, pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, définir effectivement les mécanismes d'orientation et tout ce qu'il faut. Donc l'attention particulière du chef de l'État constitue déjà une garantie. Je crois que si tous les services sont très attentifs à cela, sont effectivement assez sensibles, et ils observent bien l'attitude particulière du président de la République, ils vont s'activer pour qu'il n'y ait pas de défaillance dans la mise en œuvre. Donc à ce niveau-là, je crois que la garantie, c'est d'abord l'attitude du chef d'État lui-même, qui non seulement a la volonté, mais également une ferme détermination de pouvoir accomplir cette volonté. Donc c'est sur ça que nous devons compter. Et en même temps, le chef d'État voudrait que chacun d'entre nous, ça c'est ce que je note, que chacun d'entre nous devra jouer un rôle citoyen important. Faut pas penser que le président de la République, il a des yeux partout, il a des oreilles partout.
Non.
Vous également, vous jouez un rôle, un contrôle citoyen efficace, pour que lorsque vous voyez des dérapages, vous voyez ceci qui ne va pas, vous annoncez, et le président de la République, étant lui-même très sensible, très empathique, il ne tardera pas à prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir corriger ce qui doit l'être.
Parce qu'il est important, il y a un mal, la corruption, tout ça, un problème de gouvernance.
Oui, tout ça, bien sûr, c'est un processus. Hein.
Pas en un seul jour qu'on
Non. La corruption, est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui un seul pays où on ne parle pas de corruption? parmi les pays les plus développés. Donc, la corruption se déploie toujours sous des formes diverses. Il y a des formes perceptibles à l'œil nu et des formes qui nécessitent une grande expertise pour comprendre que là, il y a eu acte de corruption.
C'est un mal qu'il faut absolument combattre.
Hein. Un combat, mais on ne met jamais fin à la corruption. Ce qui importe, c'est d'arriver à réduire son impact et même...
Parce que c'est ça qui freine même les développements.
Et bien sûr, mais on ne peut pas se développer si la corruption a des ampleurs qui ne permettent pas à ce que les compétences soient valorisées, à ce que les meilleurs choix soient faits. Mmh. Parce que lorsqu'il y a corruption, ça veut dire qu'on peut prendre un mauvais produit, on peut prendre un mauvais produit à la place du bon.
Voilà, dans la passation des marchés,
tout ça. Parce que soi-même, on se trouvait intéressé.
Oui.
Et donc, ça, ce n'est pas de nature à garantir l'efficacité, la productivité et même le meilleur service à la communauté. Donc, on ne peut pas parler de développement lorsque la pollution a des ampleurs énormes qui dépassent certains seuils. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire à notre ami pour le rassurer que tous nous devons jouer notre rôle, nous devons participer à la mise en œuvre de ce programme, non seulement en concourant effectivement aux appels d'offres, mais également en jouant son rôle de contrôle. Parce que chaque citoyen, il s'agit de biens des Congolais, ce sont nos biens, ce sont nos projets. Mmh. Chacun doit s'approprier ce projet, chacun doit veiller à sa bonne mise en œuvre. Et donc, il faut pas fermer les yeux lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dénoncer. Et le président de la République, qui écoute, ne tardera pas à réagir.
Bon, il y a une question de Justin de Fungourou, mais par rapport à la base des données, pourquoi ne pas recruter la main d'œuvre locale
dans
chaque territoire et pourquoi ne pas attribuer des marchés aux structures congolaises?
Bien sûr, si vous avez suivi, chaque fois que le président parle, il met l'accent sur la nécessité d'évaluer ce que nous avons comme compétences au niveau local. Et ce programme, parce qu'on dit que c'est un programme de développement local, nous avons dit que au départ, il a été inspiré par le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Ce programme a procédé d'abord par une approche participative, c'est-à-dire identifier les besoins au niveau de la base. Parce qu'il faut que la population pour qui vous devez intervenir vous dise, voilà, nous avons telle priorité, nous avons tel besoin. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, l'approche participative, qu'on peut participer à la population, effectivement, à la définition des priorités. Donc il faudrait aussi que, dans la mesure de leurs compétences, de leurs possibilités, ces populations puissent effectivement participer à la mise en œuvre. Donc si on a dit qu'il faut redynamiser les économies locales, on ne peut pas les redynamiser en amenant tous les prestataires de la ville. Il faut absolument que l'argent...
Par exemple, à Kaminaou, il y a un problème de route.
Bien sûr, il faut absolument que les structures locales, sauf si elles n'existent pas, si elles sont là et qu'elles peuvent faire les travaux, qu'elles le fassent. Parce que l'argent doit rester au niveau des territoires pour recycler. Parce que ça doit être recyclé au niveau des économies locales. Ça doit rester. Parce que si vous donnez tous les marchés à ceux qui sont à Kinshasa ou aux Chinois,
oui.
Mais l'essentiel de ressources, l'essentiel de cet argent va rester à Kinshasa où ça va être expatrié. Donc il importe de veiller à ce que, c'est même ce que nous disons aux agences d'exécution, de privilégier d'abord les unités ou les structures qui existent localement. Parce que quand il faut, par exemple, réhabiliter les écoles, ça ne demande pas, et ce sont des écoles de type plan qui sont déjà connues, qui ne demandent pas une ingéniosité particulière. Donc, il y a des structures au niveau des territoires qui peuvent effectivement participer ou gagner des marchés pour élaborer donc ces travaux, donc réhabiliter les écoles, réhabiliter les centres de santé, ainsi de suite. Donc on ne peut recourir aux structures étrangères ou qui sont dans les villes que lorsque il y a effectivement carence un milliard d'euros. Donc je crois que c'est important, on va veiller à cela parce que le président de la République voudrait effectivement que les dépenses, les ressources qui sont effectivement affectées à ce programme puissent bénéficier au maximum à ces populations locales. Donc ça, nous devons tous y veiller et on va continuer à sensibiliser les agences d'exécution pour qu'elles tiennent compte de cet aspect-là des choses. Alors, il y a notre ami Pascal.
Donc, Pascal,
ça complète effectivement ce que notre ami Pascal a dit tout à l'heure.
Il a dit qu'il y a des gens qui peuvent travailler pour saboter ces programmes, pour faire échouer.
Effectivement,
ce programme.
C'est pourquoi on a mis, les structures au niveau du pilotage, de la mise en œuvre du programme. Il y a plusieurs structures qui interviennent. Le président de la République lui-même, ses services spécialisés suivent ça de très près. Les obligations de suivre de très près. en dehors de ce que font le ministère, les différents comités de pilotage, de suivi, ainsi de suite, il y a effectivement des services, particuliers chefs de l'État, qui suivent de très près la mise en œuvre. Donc ça, c'est déjà, ça peut servir de soupape de sécurité pour éviter à ce qu'il y ait des dérapages déplorables comme ceux des expériences passées. Et donc ça, tous, comme je dis, tous nous devons, parce que nous ne sommes pas, ceux qui sont au niveau du comité de pilotage ne sont pas en territoire, mais vous qui êtes en territoire, vous devez également jouer un rôle important en faisant parvenir à ceux qui sont ici des informations si jamais vous avez détecté des anomalies ou des dysfonctionnements dans la mise en œuvre.
Professeur Peter, ouais. On dit souvent que le développement, on peut pas oublier la composante capital humain. Aujourd'hui, on parle du développement des 145 territoires, mais de l'homme congolais lui-même. Pourquoi on n'en parle pas souvent?
L'homme congolais, mais je ne sais pas de quelle manière vous voudriez qu'on en parle. On même si on n'en parle pas, on le fait. On en tient compte. La gratuité de l'enseignement, c'est quoi? C'est déjà au départ la formation du capital humain. C'est permettre à ce qu'on puisse permettre donc donner
accès. Parce qu'il y a des mentalités qu'il faut changer, rétrogrades, qu'il faut changer complètement.
Ouais, c'est ce que je dis. Donc déjà, parce que vous parlez du capital humain, humain, ça commence d'abord par la base. C'est l'enseignement primaire que le chef de l'État a rendu gratuit pour effectivement permettre à ce que ceux qui n'ont pas de moyens puissent y avoir
étudier, accès. Oui.
Donc ça c'est déjà une dimension. L'autre dimension, c'est
l'éducation à la citoyenneté.
C'est l'éducation à la citoyenneté, ça c'est important. Il y a au niveau de la présidence de la République toute une cellule chargée de changement des mentalités. Et ça c'est et la cellule essaie de faire ce qu'elle peut faire dans la mesure du possible. Je crois que beaucoup de messages sont colportés, sont vulgarisés à travers tout ce que nous avons comme visuel et moyen de communication des masses. Il n'y a pas que ça. Le changement de mentalité, c'est aussi tous les signaux qui se donnent. Le travail que fait le GEF aujourd'hui, grâce effectivement à la latitude que lui a donné le président de la République de pouvoir utiliser pleinement ses attributions, ça donnait un signal important qui a amené les uns les autres, chacun bien sûr,
à revenir sur le droit chemin.
Voilà, commencer à veiller à ce que ces pratiques ne soient pas réprochables. Donc il y a cette dynamique, il faut cette prise de conscience collective pour veiller à ce que tous ont une responsabilité de servir la République. Il faut qu'on l'assume dans le respect de bien commun et en veillant à ce que les missions qu'on s'est vu confier soient accomplies de la manière la plus efficace et dans la plus grande transparence. Donc c'est ce à quoi tous nous sommes appelés, c'est
aimer sa patrie, travailler pour le bien pour sa patrie.
C'est important. Donc le développement humain, c'est pas seulement la formation, le développement c'est aussi la santé. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Ouais. On est en train de faire en sorte que d'ici là l'accès aux soins de santé soit, si ce n'est pas gratuit, mais soit à des conditions les plus accessibles possibles. Donc tout ça, c'est des volets importants.
On va accueillir les deux derniers auditeurs, Isaac de Kisangani et Antoine de Bounia. Nous parlons du programme de développement des 145 territoires. Isaac, bonjour, vous êtes à Kisangani, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, jeudi, et bonjour, professeur. Ma préoccupation était celle de savoir quelle est la place qu'occupe le jeune dans le programme de développement des 145 territoires. Parce que sans l'investissement aux jeunes, aucun développement n'est envisageable. Plus de 70% des habitants de nos 145 territoires en RDC sont constitués de jeunes et ces derniers vivent dans la pauvreté extrême due à leur chômage et au sans-emploi. Et cela constitue un véritable frein au développement économique et social d'une part et une source de tensions sociales d'autre part.
Bien, merci Isaac qui nous rappelle que les jeunes, quelle est la place accordée aux jeunes dans ce programme des 145 territoires. Antoine, vous êtes à Bounia, bonjour, quelle est votre préoccupation?
Bonjour, aujourd'hui vous me recevez?
Oui, 5 sur 5, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci pour la parole. C'est très bon, cette initiative du gouvernement pour le développement des 145 territoires. Moi, je voudrais dire ceci tout simplement parce que j'avais suivi les amis, chacun donnait son point de vue. Mais j'avais suivi un membre du gouvernement et j'étais d'accord avec lui hein, parce que je pense qu'ils avaient mis dans chaque territoire 10 millions de dollars. Si vous faites le calcul, je pense que ça va tomber sur 1 milliard 500 millions comme vous avez dit là-bas. Je pense que par après, on pourra mobiliser d'autres ressources. Et puis, j'étais tout à fait d'accord avec lui parce qu'il avait dit que chaque territoire va essayer de voir être priorité. Moi, je pense que ça, pour chacun, je disais les amis qui disaient qu'on construise les routes. Vous savez, comme dans d'autres territoires où, si vous venez ici, disons, à côté ici, au nord de vous, je pense qu'on commence déjà à se développer au niveau des routes. Hein. Moi, je pense qu'il y aura d'autres priorités là-bas. Donc, chaque territoire doit identifier ses priorités. C'est ce que je pense et j'ai soutenu le membre du gouvernement, que chaque territoire identifie ses priorités et on commence par là et puis on va petit à petit. C'est ça.
D'accord. Mais certains ont dit qu'on ne peut pas attribuer le même montant à chaque territoire parce que les besoins ne sont pas les mêmes.
Moi, je ne pense pas comment les besoins ne sont pas les mêmes. Nous avons vraiment de grands besoins. Nous sommes en Afrique, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous voulons que chaque territoire veuille décoller. Comment on peut dire que les besoins ne sont pas les mêmes? Il y a des problèmes. Chaque territoire a vraiment des problèmes. Dire que les problèmes ne sont pas les mêmes, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, les amis, on discute avec les amis ici. Ils disent d'ailleurs que c'est 10 millions. C'est trop peu, vous voyez. Et venir dire que les besoins ne sont pas les mêmes, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Bien, merci, professeur Peter Kasongo.
Ouais. Merci, chers amis, pour les questions. Je commence d'abord par la question, par la préoccupation du dernier intervenant qui lui dit que pour certains, ils disent que 10 millions c'est trop peu.
C'est trop peu.
Oui, 10 millions.
Mais on a les territoires n'ont pas les mêmes dimensions. Vous prenez par exemple Shabunda au sud Kivu, c'est un très grand territoire. Donc comment on peut attribuer un montant des 10 millions à chaque territoire sans tenir compte des particularités, des besoins.
Les disparités sont non seulement entre les villes et les territoires, mais également entre les territoires eux-mêmes. Ça s'est connu. Et ici, c'est d'abord une première expérience, parce que vous avez, on n'a pas eu assez de temps, le gouvernement n'a pas eu assez de temps matériel pour aller dans chaque territoire, aller de manière très approfondie, scruter le besoin spécifique à chacun. Donc,
C'est important. Ouais,
c'est important. Mais pour ne pas effectivement laisser tout ce temps passer, il a été levé l'option de pouvoir attribuer à chaque territoire un même montant. On dit voilà, on doit d'abord, c'est l'égalité d'abord, l'équité on verra. Hein? L'équité on verra. Ça c'est une première expérience. Oui. Je crois qu'en d'ici 2023, une évaluation faite pourra permettre à ce qu'on puisse corriger les défaillances ou les disproportionnalités qui doivent être corrigées. Mais ce qui est très important, c'est d'abord partir avec cette expérience et qu'elle aboutisse avec la plus grande efficacité.
Professeur Peter, on va aller rapidement à l'implication des jeunes dans ce programme.
L'implication des jeunes, je me demande pourquoi notre ami n'a pas réalisé que ce programme est essentiellement pour les jeunes, parce que la population rurale elle-même, elle est constituée essentiellement des jeunes. Donc, si vous avez des projets, parce qu'on suppose que vous avez certainement la force physique, vous avez la force mentale, vous avez des initiatives. Si vous avez tout ça, déployez-vous. Et le travail qui se fait, ça se fait pour que ceux qui ont des activités agricoles ou qui ont des unités de production puissent effectivement bénéficier des subventions qui sont prévues ou des appuis qui sont prévus dans le cadre du programme. Donc ici, les jeunes ne sont pas exclus. D'ailleurs, ce sont les principaux bénéficiaires du programme. On espère que vous qui avez cette préoccupation, vous avez une activité qui peut être en quête de soutien ou d'appui. Donc, vous n'êtes pas exclus. D'ailleurs, c'est vous, le jeune, le plus grand bénéficiaire. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on puisse, dans la formulation, dire voilà la part de jeunes. Donc, c'est de manière sous-entendue un projet essentiellement au bénéfice de la jeunesse.
Bien, merci professeur Peter Kasongo d'avoir accepté de participer à cette émission pour analyser, commenter ce programme, ce vaste programme de développement des 145 territoires. Merci, nous rappelons que vous êtes professeur à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. Excellente journée et à la prochaine.
Merci jeudi, excellente journée à tous les auditeurs, à vous-même.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.